Merci de votre fidélité au programme du Studio Kalangou et bienvenue dans l'émission Espace Femmes qui traite des questions qui concernent les femmes. Rôle de la microfinance dans l'autonomisation des femmes au Niger, c'est le thème de l'émission de ce soir. Au Niger, le PNUD souligne que l'analyse des statistiques selon le GER montre une faible participation des femmes à la vie active. Le taux d'activité est de 36,5% pour les femmes et 82,5% pour les hommes. En milieu urbain, 65,6% des hommes sont actifs contre seulement 26,8% des femmes. Cependant, les femmes manquent d'accès aux services financiers de proximité, d'éducation financière, de comptes bancaires et de crédits adaptés à leur activité, ce qui ne leur permet pas de s'investir efficacement dans les activités de production rentables et mieux rémunérées. Alors, comment amener les femmes à s'intéresser aux entreprises financières pour booster leur activité? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Fatouma Kadri, conseillère en crédit MECREF, mutuelle d'épargne de crédit des femmes au Niger, et de Madame Nana Echotou Idi de la Fédération Berey Mata Massoudoubara. Je suis Rafika Taher à la présentation. Comme je l'ai annoncé en début de l'émission, nous allons parler ce soir d'un sujet d'actualité qui concerne l'autonomisation des femmes aux microfinances. Madame Fatouma Kadri, bonjour.
Bonjour Madame.
Alors, dites-nous quelles sont les spécificités de votre banque de microfinance en matière de soutien aux femmes et comment cela diffère-t-il des autres traditionnels de crédit?
La MECREF, mutuelle d'épargne et de crédit des femmes, octroie des crédits aux femmes à court, moyen et long terme. Elle facilite aux femmes leur épargne, l'accès aux microfinances, pour leur faciliter leurs activités socio-économiques et culturelles. Notre spécificité de notre mutuelle, elle est faite pour les femmes, pour aider les femmes et jeunes filles. Elle leur a fait des appuis des villes et des villages environnants.
Madame Nana Echotou, bonjour.
Bonjour.
En tant que responsable d'un groupement féminin, quel rôle votre organisation joue-t-elle dans l'autonomisation économique des femmes et comment collaborez-vous avec les institutions de microfinance?
Notre fédération est composée des unions, des groupements. Les unions sont composées de 3 à 4 groupements pour former une union. C'est l'ensemble de ces unions-là qui forment la fédération. Nous, au niveau de la fédération Béré de la commune 3 de Niamey, nous avons 6 unions. Bon, nous travaillons avec les microfinances, avec les versements que nous appelons Zubi. C'est ça que nous formons pour ouvrir des comptes aux femmes. Mais avant l'ouverture des comptes, nous recherchons des partenaires pour les former d'abord sur l'autonomisation, comment faire leur petit commerce. C'est après et certaines formations sur la vie, sur leur vie sociale, surtout sur les violences basées sur le genre, etc. C'est la fédération qui cherche ses partenaires pour la formation. Et c'est la fédération même qui les met en contact avec les banques. Puisque la banque a des relations avec la fédération. Donc c'est la fédération qui met la banque et nos militantes en contact. Après, nous ferons appel à la banque pour les former et leur expliquer comment prendre leur crédit.
Et comment est-ce que le processus se déroule? Votre collaboration avec les banques de microfinance?
On a de très bons rapports avec eux. Mmh. On a de très bons rapports avec eux, puisque ce n'est pas avec la MECREF seulement qu'on travaille.
Madame Fatouma, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez assez souvent, que rencontrent ces femmes assez souvent, tant en milieu rural qu'urbain, lorsqu'elles tentent d'accéder aux services de microfinance?
Il n'y a pas assez de difficultés pour les femmes. On se déplace dans les villages pour aller sensibiliser, former les femmes et les jeunes filles par rapport à l'accès au système de microfinance. On leur fait des séances de sensibilisation, plus particulièrement comment une femme peut réaliser ses activités. On leur fait des éducations financières qui lui permettent aussi de subvenir à ses besoins. c'est nous qui se déplace vers les femmes qui sont un peu reculées.
Et toute femme qui souhaiterait avoir une inscription chez vous, elle peut le faire sans problème, ou bien est-ce qu'il y a des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de vos services?
Toute femme nigérienne a droit à adhérer à nous. Il suffit, si c'est pour avoir ton compte individuel, on a besoin de droit d'adhésion de ton carte d'identité, pièce d'identité. Pour les groupements, on utilise leur agrément et aussi il y a un droit d'adhésion qui paye et ils ont droit à adhérer.
Madame Nana Echatou, à peu près la même question pour vous. Est-ce qu'il y a des difficultés spécifiques que ces femmes rencontrent, ces femmes rurales, surtout lorsqu'elles tentent de monter un projet ou une activité économique?
Bon, généralement, les femmes rurales, là, elles n'aiment pas vraiment les crédits des banques. Elles sont peu les femmes rurales qui souhaitent les crédits des banques. Mais les femmes urbaines, c'est elles qui travaillent beaucoup avec les banques, comme l'a dit Fazma. Mais c'est à ces banques de se déplacer pour contacter ces femmes, les femmes rurales. Mais franchement, les femmes rurales n'aiment pas vraiment les crédits des banques. C'est elles-mêmes qui cotisent pour aller épargner leur argent.
Est-ce que vous intervenez dans ce sens, les encourager à le faire?
On intervient, on les encourage, mais ce n'est pas facile vraiment. Surtout avec les intérêts que les banques augmentent. C'est ça. Surtout avec notre religion, on dit que l'intérêt, ce n'est pas bon.
Donc si elles essaient de monter leur projet ou leur activité économique, elles s'y prennent toutes seules, elles n'ont pas d'aide de la part des microfinances ou bien d'une organisation comme la vôtre?
Généralement, les femmes urbaines, elles sont peu à contracter les crédits des banques. C'est elles-mêmes qui investissent leur argent pour déposer aux banques, pour sécuriser leur argent, quoi.
Donc, si je vous suis bien, les banques de crédit sont surtout là pour les femmes urbaines.
La plupart.
On continue avec vous, Madame Fassouma. Est-ce que l'accompagnement des microfinances s'accompagne aussi d'une formation ou d'une éducation sur la gestion financière?
Oui, il y a une éducation financière qu'on fait aux femmes et aux jeunes filles, surtout ceux qui sont dans les zones rurales. On leur fait des éducations financières, on les appuie. On les montre comment faire pour monter leur projet ou bien pour bien faire leur activité de l'embauche ou bien AGR ou entre autres, on les appuie beaucoup.
Donc nous allons maintenant écouter quelques témoignages des femmes recueillies sur le sujet.
Voilà, et ça, avoir un prêt à la banque, ça aide énormément. Avec ce crédit, la femme peut faire un commerce de son choix. Avant, je ne faisais aucune activité économique. Mais depuis que j'ai eu l'info que je peux avoir un prêt sans être dans un groupement, je suis allée me renseigner et ils m'ont prêté 5 000 francs. Puis, j'ai eu un autre prêt de 200 000 après le remboursement du premier prêt. Ainsi de suite, j'ai pris 300 000 francs. Et là, Dieu merci, je fais quelques activités, comme l'élevage et d'autres activités sans quitter la maison, comme la vente des pagnes, des hijabs, des chaussures et autres. Voilà, avec ça, je subviens à mes besoins, ceux de mes enfants et de mes proches.
Dieu merci, nous avons bel et bien de bonnes relations avec les banques. Nous travaillons main dans la main et la banque nous aide beaucoup. Nous épargnons l'argent de notre association depuis des années. Et à chaque fois que nous avons besoin de faire des retraits, ça se passe bien. Nous faisons la transformation agroalimentaire. Nous déposons l'argent à la banque. Quand les récoltes sont bonnes, nous retirons l'argent et nous payons les vivres avec. Pour procéder à la transformation, après la vente, on dépose encore l'argent à nouveau et attendre la prochaine saison. Mais nous n'avons jamais pris de crédit bancaire.
Je ne dirais que Dieu merci. Au début, j'avais emprunté 50 000 francs pour faire mes beignets de farine de blé. Petit à petit, j'ai emprunté jusqu'à 500 000. Et là, j'ai ouvert ma boutique où je vends de la farine, du riz et d'autres denrées alimentaires. Dieu merci, j'arrive à rembourser mon prêt. Si ce n'est pas eux, qui va te donner un prêt? Que Dieu les récompense.
Est-ce que vous avez des réactions, Madame Fatouma, sur ces témoignages qu'on vient d'écouter?
Oui, j'ai des réactions positives par rapport à ces témoignages. Vraiment, les femmes de ce groupement sont très dynamiques et ils montrent qu'eux, ils travaillent avec leurs propres fonds. Donc, ils utilisent l'épargne. Il y a ceux qui font de l'épargne, c'est ça avec qu'ils font leur activité génératrice de revenus. Donc, il y a les femmes-là, on les encourage aussi. Ils viennent chaque mois ou chaque semaine, ils font leur épargne au niveau de notre microfinance. Après un certain temps, ils viennent récupérer leurs propres fonds pour aller se lancer dans le commerce. Et ça marche bien aussi, comme elle a pu témoigner, la dame-là.
Donc, un témoignage assez positif. Et vous, madame Nana Echette, est-ce que vous avez des remarques à faire sur les témoignages?
Tout d'abord, je félicite ces femmes de Koni. Vraiment, je les félicite du courage. Et puis, leur argent qu'elle apporte à la banque, c'est pour sécuriser cet argent-là qu'elle apporte. Vraiment, je les félicite beaucoup.
Madame Nana Echette, est-ce que l'accompagnement des microfinances s'accompagne d'une formation ou d'une éducation sur la gestion financière au sein de votre groupement?
Oui, les microfinances, ils apportent leur soutien à ces femmes pour la formation financière, comment gérer leur activité, comment prendre les crédits, comment sécuriser leur argent. Toutes ces formations-là, on les reçoit de ces banques-là. Et on reçoit aussi des appuis financiers pour monter des activités.
Est-ce que vous pouvez nous partager votre parcours? Par exemple, comment vous avez connu votre groupement? Comment est-ce que vous êtes arrivé à collaborer avec les microfinances? Ce qui vous a permis aussi de lancer l'activité dans laquelle vous évoluez?
Ah bon, tout d'abord, l'idée de la formation de ce groupement était venue avec l'avènement de Feu Tanja Mamadou, qui a commencé à donner des crédits à des femmes. Donc, c'est de cette idée-là qu'on a commencé. Avant, il y avait ce projet, mais ce projet a commencé à Maradi, avec une dame de nom de Moira qui est partie à Maradi. Elle a vu les femmes en train de faire des zubis sous forme de adaché. C'est elle qui a monté tout ce dossier-là. Donc, c'est après qu'on nous a amené ça à Niamey. C'est de cette base-là qu'est partie même l'idée de MMD.
Qu'est-ce que ça vous a permis de faire dans le développement de votre activité?
Vraiment, ça nous a beaucoup aidé et ça a aidé beaucoup de femmes, nos militantes, vraiment. Puisque nous, dans notre quartier, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de femmes qui font leur activité, mais il y a beaucoup de femmes. Les femmes qui font leur activité sont plus nombreuses que les femmes qui ne font rien. D'accord. Il y a des femmes, des productrices de maca, productrices d'huile d'arachide, productrices d'encens, et celles qui font leur petit métier, elles amènent dans les écoles ou dans les quartiers, les ferimassa, les kekena et autres, et leur dambou aussi.
On va progresser avec vous, Madame Fassouma. Comment est-ce que les bénéficiaires perçoivent-elles les services des microfinances dans leur parcours d'autonomisation? Y va-t-il des résistances ou des freins à l'utilisation de ces services?
Oui, il y a des freins à l'utilisation de ces services. C'est ça que les femmes appellent communément les intérêts. Mais nous, on ne les considère pas par des intérêts, mais ce sont les frais de charge. Parce que pour monter un dossier ou les déplacements qu'on fait dans les zones rurales, ça demande de charges de déplacement. Il y a les locations des locaux, il y a le service qu'on fait, les rames et autres qu'on utilise dans le service.
Et celles qui viennent souscrire chez vous, qu'est-ce qu'elles pensent finalement de l'action qu'elles ont posée? Celles qui viennent chez vous, est-ce que finalement elles sont satisfaites d'avoir ouvert un compte, d'avoir souscrit à une microfinance ou bien qu'est-ce qu'elles pensent finalement?
Beaucoup de femmes sont fiers et beaucoup d'entre elles, les femmes et les jeunes filles, ont entrepris avec plaisir de leurs activités. Ça a beaucoup marché. Il y a des femmes, pas mal de femmes, un peu partout dans les sous-régions, qui ont beaucoup bénéficié aussi de la MECREF.
Est-ce qu'il vous arrive aussi d'avoir, par exemple, des initiatives pour accompagner ces femmes qui sont dans le besoin, surtout les femmes rurales? Est-ce que vous avez des initiatives, des projets d'accompagnement des femmes sans pour autant que la demande ne vienne d'elles?
Oui, on a, parce qu'on a des séances de sensibilisation qu'on organise et on va cibler une zone et on va vers les femmes pour les sensibiliser, pour leur montrer notre produit et leur montrer leur utilité. Et par rapport à cette séance, on a abouti à beaucoup de femmes qui s'adhèrent et des groupements aussi.
Vous existez depuis quand?
Depuis 1996.
1996. Et depuis, est-ce que vous pouvez nous dire, nous donner des statistiques, combien de femmes sont domiciliées chez vous?
Présentement, en fin novembre, on a plus de 33 000 membres.
Active ou bien...
Active.
D'accord.
Oui.
Merci, Madame Fassouma. Madame Nana Aïchatou, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que les femmes bénéficiaires chez vous de votre groupement perçoivent-elles le service des microfinances dans leur parcours d'autonomisation?
Il y a d'autres qui préfèrent prendre individuellement. Il y a d'autres qui prennent, c'est tout l'ensemble du groupement qui prend pour partager. Mais elles ont vraiment bénéficié.
Qu'est-ce qu'elles pensent des microfinances?
Bon, leur pensée...
Est-ce que tout se déroule toujours bien pour elles ou bien il y a toujours des fois des lacunes qu'elles doivent, des défis qu'elles doivent surmonter?
Il y a vraiment des lacunes parce que chaque fois, elles nous disent que le taux d'intérêt est un peu élevé. Et puis, deux fois, le délai qu'on leur donne, elles demandent à ce qu'on leur augmente un peu le délai et qu'on, si possible, qu'on réduise le taux d'intérêt.
Vous avez fait part de ces doléances chez les microfinances?
Si.
Qu'est-ce qu'ils en pensent? Oui, qu'est-ce qu'ils en pensent?
Ils ont dit qu'ils vont étudier ça.
D'accord. Donc, Madame Fassouma, avez-vous observé des changements significatifs dans la vie des femmes que justement que vous accompagnez après qu'elles aient accédé à un financement? Et un exemple si possible.
Oui, il y a des changements par rapport aux femmes. Parce qu'il y a une femme en maladie qu'elle s'appelle Zainabou. Elle, vraiment toujours, elle est contente, elle est fière. Elle a beaucoup investi. Elle est devenue une grande commerçante. Elle a commencé avec un crédit de 50 000 pour une promotion. Maintenant, elle prend jusqu'à 5 millions et ses activités, ça marche bien. Elle est fière. Elle nous dit qu'elle a construit avec, elle a fait tous ses besoins. Il y a une autre ici. Elle a commencé depuis 1996, la création. Elle aussi, elle est fière. Maintenant, elle est une membre. Elle prend jusqu'à 10 millions. Elle me disait avant-hier même, elle a construit 3 maisons avec le bénéfice, elle a des taxis, elle a des tricycles. Ses activités, ça marche bien. Il y en a beaucoup de femmes qui sont fières.
Madame Nana Aïchatou, est-ce que chez vous aussi, dans votre groupement, y a-t-il des exemples aussi positifs que Madame Fatouma vient de nous donner? Est-ce que vous avez remarqué des changements chez vous, dans votre groupement, chez les femmes qui ont bénéficié d'un crédit microfinance?
Oui, il y a des femmes qui ont évolué dans les crédits finances avec les banques de microfinance. Mais il y a d'autres qui n'ont pas vraiment évolué. Et puis après, avec les changements de régime, surtout à la MECREF, que je vais dire, vous m'excusez, hein, la politique a ingéré. C'est ce qui a un peu découragé les femmes. Si on demande un crédit, je ne sais pas c'est à quel niveau qu'elle trie les membres pour donner des crédits. C'est ce qui décourage des fois les femmes. Elles trient les dossiers pour donner.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de femme qui n'a pas eu une réponse satisfaisante avec...
Non, c'est une question de collectivité, donc je ne peux pas donner...
D'accord. Oui. On passe maintenant au portrait. Je vous propose d'écouter le portrait de Hajara Oumou Ali, présidente de Scoop Husky.
Née en 1964 à Grindogarawa, dans la commune rurale de Malbaza, Hajia Oumu Ali est mariée et mère de 5 enfants. Hajia Oumu est passionnée du commerce depuis son jeune âge, d'où sa détermination à embrasser la carrière de leader de femmes entrepreneurs. Depuis 2004, elle préside le groupement Skopaske et elle est aussi à la tête de l'association Chiwamache Namachani, dans la ville de Birninkwani.
Dieu merci, nos relations avec la banque se passent très bien. Nous n'avons pas de difficultés. Nous déposons notre argent que nous récupérons au moment opportun. Comme vous le savez, nous achetons les vivres que nous distribuons aux femmes qui font la transformation agroalimentaire. Après la vente, nous collectons l'argent que nous déposons à nouveau à la banque jusqu'à la saison prochaine. Une fois que nous achetons les vivres, chaque femme prend sa part selon ses moyens, puis elle se concentre dans la transformation. Mais en dehors du dépôt, on n'a pas encore commencé à prendre crédit avec la banque.
Grâce au soutien de la banque, le groupe Moscou Pasquier a fait plusieurs réalisations. Hajia Oumu Ali confirme.
Nous avons eu plein de succès dans cette activité. Par exemple, chaque fois que l'État a besoin de nous pour une quelconque contribution, nous avons toujours répondu. Rien que pour le compte du Fonds pour la solidarité au CNSP, nous avons contribué à hauteur de 5 000 francs CFA. Ensuite, nous assistons aussi les CSE. Nous payons les nattes et les bouilloires pour déposer dans des mosquées et les makarantas.
Farida Mahamadou, comptable de la dite association, dresse la situation financière ainsi que les développements réalisés, selon elle, grâce au soutien de la banque.
C'est en 2021 qu'elles ont commencé les achats. Elles ont payé 310 sacs. Elles ont encore augmenté 104 sacs de soja. Après la vente, elles ont payé 400 sacs en 2022. En 2023, après la vente, elles ont payé un surplus de 511 sacs de mil et 145 sacs de sorgho.
Bien qu'elles n'ont pas encore opté au crédit bancaire, souvent, elles rencontrent des difficultés pour retirer l'argent au moment opportun.
Nous avons eu quelques difficultés, surtout après le coup d'État. Les banques ont presque fermé. Et nous, à ce temps-là, c'est la récolte qui s'approche. Nous avons besoin d'argent pour payer les vivres. Si on part à la banque, nous n'avons pas accès à notre argent. Il y a même des fois où la banque nous donne 50 000 francs seulement, alors que nous, on a besoin de plus d'argent, comme c'est la période propice pour payer les vivres.
Hajia Oumu Ali est une femme engagée et déterminée, prête à défendre les droits des femmes et des enfants qui sont en difficulté dans la ville de Koni et ses alentours.
Qu'est-ce que vous pensez de Hajia Oumu, Madame Fatouma?
Hajia Oumu est une femme battante, masha'Allah. Ses activités marchent bien avec ses groupements et elle a un peu rencontré des difficultés au moment du coup d'État.
J'allais justement par rapport vous poser la question, oui.
À l'accès aux banques. Oui, vous savez, nous, les microfinances, nous avons aussi un compte au niveau des banques. Et les banques aussi, leur compte se loge au niveau de la BCAO. Donc, au moment du coup d'État, les banques sont fermées. La BCAO, elle est fermée. Donc, on ne peut pas y avoir l'accès à l'argent. C'est ce qui a fait le petit perturbation qu'on a eu. Donc, on ne fait que tourner avec le fonds qui sont dans le coffre présentement. Et c'est un temps qui est venu brusquement, qu'on n'a pas prévu, parce que chaque coffre a une limite de l'argent dans le coffre. Donc, tu ne peux pas dépasser ton limite. Ils ont fait leur versement au niveau de la BCAO. Donc après, le coup d'État en a arrêté. La BCAO est fermée. Donc l'accès au niveau de retrait à la banque, ce n'est pas facile. Ce qui a fait que quand les membres viennent, ils ont leur épargne, mais ils ne peuvent pas avoir l'accès à leur argent, à leur propre fonds. Oui, c'est oui. Un temps, mais ça n'a pas pris beaucoup de temps, ça s'est vite régularisé parce que on fait des activités, on a des entrées, avec ça on a pu surmonter les gens, on a pu continuer à faire notre activité. Mais maintenant, mashallah, tout est repris à leur place normale.
Madame Nana Aïchatou a soulevé tout à l'heure, juste avant le portrait, la question d'attribution des prêts. Elle dit qu'elle ne comprend pas comment est-ce que vous arrivez, vous attribuez vos prêts. Il y a des personnes qui sont favorables, par contre d'autres non, c'est bien ça. Donc comment est-ce que ça se passe? Quelle réponse est-ce que vous avez à lui donner?
La réponse
vous l'avez bien suivi quand elle parlait de sa voix là.
J'ai bien suivi Hajia par rapport à son propos, mais moi je suis agent de crédit. Ce que je vais la témoigner, son idée là, ce n'est pas ça. Parce que nous, c'est pour toutes les femmes et les filles. Il n'y a pas ici, il n'y a pas ça. Il n'y a pas politique, c'est apolitique, c'est pour tout le monde. On est là pour toutes les femmes et filles. C'est nous qui faisons le traitement de dossier de crédit. Quand tu vois un membre n'a pas eu l'argent qu'elle a demandé, sois sûr. Elle a pris un crédit dont elle a mal remboursé. Ou bien, on a beaucoup souffert par rapport à son remboursement. Quand elle revient, il y a des règles qui nous permettent de traiter son dossier. On ne peut pas lui accorder le montant qu'elle veut. Parce que son dernier crédit a été mal remboursé. On ne peut pas l'octroyer directement encore ce qu'elle veut. On a vu ce qu'elle a pris, elle n'a pas pu supporter. On est obligé de amortir son crédit pour qu'elle puisse se redresser encore.
Madame Fassouma a répondu à votre préoccupation, Madame Lanachetou.
Elle a répondu, mais elle ne m'a pas convaincue.
Donc, nous allons progresser avec vous, Madame Nana Aïchatou. Quelles sont vos remarques concernant sur le portrait qu'on vient d'écouter?
Vraiment, c'est les femmes de Conil, ce sont des femmes à féliciter. Je les encourage. Et puis, je veux que les femmes urbaines aussi prennent leur exemple. Parce que vraiment, avec les femmes urbaines, en dehors des microfinances qui leur donnent l'argent, même nous qui sommes devant les groupements féminins, on a des difficultés de fois avec elles pour le remboursement. Puisque certaines femmes, si on leur donne les crédits des banques, soit ils laissent ça à la maison, les enfants les volent ça, ils n'ont pas les moyens pour rembourser. D'autres les montrent à leur mari, les maris empruntent, ils leur disent, quand le délai est arrivé, on va vous donner pour payer. Après, ça devient un problème. D'autres, on leur donne, ils ne font pas la différence entre le commerce et la poche. C'est ça le problème des femmes urbaines.
Ça revient à ce que Madame Fatouma a dit, une fois le crédit octroyé, elle rembourse mal. Donc, qu'est-ce que vous leur conseillez? Quel appel est-ce que vous leur lancez pour ces femmes qui n'arrivent pas à bien gérer les crédits qu'elles ont perçus?
Bon, nous, comme on a des groupements, au moins dans chaque quartier, on a au moins 2 ou 3 groupements. On leur propose, si elles ne peuvent pas laisser l'argent avec elles à la maison, elles n'ont qu'à venir déposer ça au niveau de la caisse du groupement. Puisque c'est une caisse qui est bien entretenue, en dehors de la trésorerie et la présidente, c'est elle seule qui a les clés. Donc, elle ne peut même pas adhérer à ça. Si elle craint que si elle laisse l'argent à la maison, quelqu'un va venir prendre ça ou bien quelqu'un va leur demander d'emprunter, elle peut amener ça au niveau de la caisse du groupement pour qu'on leur dépose ça. Okay. Parce qu'on a une forme de zubu qu'on appelle. Si tu veux, tu peux faire une part, 2 parts, jusqu'à 4 parts, tu peux déposer. Après, quand tu as besoin de ça, il y a d'autres groupements qui font ça par semaine, d'autres qui font ça deux fois, une fois dans la semaine ou deux semaines. Donc tu peux amener à la caisse, on te dépose ça. Mais avec tout ça, elle refuse. Parce qu'on craint qu'on ait des problèmes avec nos partenaires.
En termes de gestion de votre entreprise, Madame Nana Aïchatou, qu'avez-vous appris grâce à l'accompagnement de la microfinance, que ce soit sur le plan financier ou organisationnel?
On a beaucoup bénéficié, on les en remercie infiniment. On a beaucoup, comme je vous ai dit, qu'il faut faire la différence entre la poche et le commerce. Ils nous ont appris ça. Ils nous ont appris à économiser. Et ils nous ont des formations, en dehors de formations financières, il y a d'autres qui nous donnent des formations sur la vie associative. Ils nous donnent des formations sur les violences qu'on vit. Nous donne toute cette formation.
Madame Fatouma, comment évaluez-vous l'impact de vos programmes de microcrédit sur les femmes bénéficiaires, notamment en termes de développement économique et social? Comment est-ce que vous évaluez l'impact que ça a sur ces femmes? Est-ce qu'il y a eu un avancement? Est-ce qu'elles sont toujours au même stade?
Les microcrédits sur ces femmes bénéficiaires a eu une bonne évolution parce qu'il y a plus de 50% des femmes qu'on accompagne ont réussi. Ils ont pas mal eu des activités. Les jeunes filles aussi se sont intégrées dans les activités, dans les petits commerces, les commerces en ligne. La MECAF a beaucoup accompagné des femmes et des jeunes filles positivement. Ils ont arrivé au stade qu'ils ont souhaité.
Madame Nanaïcha, tout selon vous, et la même question, quel impact est-ce que les programmes de microcrédit ont eu sur les femmes bénéficiaires?
Vraiment, les microfinances nous ont beaucoup aidés par rapport aux petits commerces. D'autres ont dépassé même les petits commerces. Si vous remarquez tout récemment au niveau de sa femme, là, d'autres femmes ont évolué à travers ça avec des formations qu'on leur donne et les crédits que les microfinances leur donnent. Nous les en félicitons.
Et que mettez-vous en place pour encourager l'inclusion financière des femmes, surtout dans les zones rurales où l'accès au financement est souvent limité et où vous nous avez aussi dit que les femmes étaient assez réticentes pour aller souscrire aux microfinances? Donc, est-ce qu'il y a des projets, des encouragements que vous mettez en place concernant l'inclusion financière de ces femmes?
Bon, nous leur donnons des exemples des femmes qui ont évolué. Nous leur donnons pas mal d'exemples. Mais leur souci, comme je l'ai dit la première fois, elles s'accaparent sur l'intérêt, qu'on leur diminue les intérêts et qu'on leur augmente un peu le délai du versement. Puisque c'est si on leur donne le crédit, après un mois, d'autres disent qu'après un mois, elles n'ont même pas démarré. Elles n'ont pas bien démarré, du moins, de leur donner un délai de au moins 2 mois. Après l'obtention du crédit, 2 mois après le démarrage du commerce, elles viennent verser.
Madame Fatouma, que mettez-vous en place aussi pour encourager l'inclusion financière des femmes, surtout dans les zones rurales où l'accès au financement est souvent limité?
Il y a des déplacements qu'on fait pour sensibiliser les femmes et les filles qui sont dans les zones rurales par rapport à l'accès aux microfinances.
Quel conseil donnerez-vous à d'autres femmes qui hésitent à solliciter un microcrédit ou à s'impliquer dans des projets entrepreneuriaux?
Le conseil que j'ai à donner, c'est que ce que je veux dire, les femmes de ne pas avoir peur pour l'accès au microcrédit. La porte de la MECAF est grandement ouverte pour les femmes et les filles. Toute femme ou fille qui voulait entreprendre ses activités, elle peut accéder et avoir ses crédits et ses accompagnements. Parce qu'on accompagne aussi les femmes par rapport aux leurs activités.
Et vous, Madame Nana Echatou, quel est votre dernier mot et quel conseil donnerez-vous à d'autres femmes qui hésitent à solliciter un microcrédit ou à s'impliquer dans des projets entrepreneuriaux?
Le conseil que je leur donne, je vais leur dire de ne pas avoir peur et de venir s'approcher au niveau de ces microfinances. Même en dehors du prêt de crédit, si on te donne certaines informations, sur certaines connaissances, c'est un acquis. De ne pas avoir peur. Le problème en est qu'avec les femmes urbaines, c'est qu'elles ne font pas la différence entre leur commerce et leur poche. C'est ça le grand problème. Elles ne font pas la différence entre la poche et le commerce.
Voilà, ici se termine notre émission. Merci, chers invités, pour votre participation. Merci aussi, fidèles auditeurs, pour votre écoute. Rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro du Forum Espace Femmes du studio Kalangou. Mais avant de nous quitter, je vous propose d'écouter notre rubrique Lotti. Excellente soirée à tous.
Affairage.
C'est quoi ça? C'est qui ça?
Leila, tu fais quoi devant les toilettes? Rentre pour que je puisse utiliser aussi.
Tante Maimouna, vous n'entendez pas ces pleurs étouffés? Il y a quelqu'un qui pleure dans les toilettes là-bas.
Ah oui? Mais attends, on va voir qui c'est.
Verina, c'est toi? Mais qu'as-tu à pleurer comme ça? Quelqu'un est décédé? Tu es souffrante?
Vas-y doucement avec elle, toi aussi, Leila. Bon, Rina, qu'est-ce qui se passe? Tu viens en parler?
Non, tout va bien. Excusez-moi d'avoir bloqué l'accès aux toilettes.
Non, rien ne va. Regarde ton visage. Tu es toute pâle. Tu ne vas pas bien. Écoute, venez, on va dans mon bureau. Venez, les filles. C'est plus intime là-bas. Rina, nous sommes des collègues. Et après tout, je suis comme une mère pour vous. Elle est là, à le même âge que toi. Tu peux te confier à nous. Je ne dis pas tout de suite, mais quand tu te sentiras prête.
Regarde comment tu es toute pâle. Tes larmes n'arrêtent pas. Tu as un souci, cela se voit. Mais je n'ai pas voulu te mettre la pression depuis un certain temps. Si c'est personnel, je te conseille d'en parler avec un psychologue ou bien une personne digne de confiance si tu ne fais pas confiance à nous.
Ne vous méprenez pas, s'il vous plaît. Bien sûr que je vous fais confiance. Mon problème, je ne sais pas dans quel cadre les classer. Mais tout ce que je sais, c'est que je suis vraiment fatiguée et j'ai très peur. Je n'arrive pas à mettre les mots sur mes émotions.
Essaye, ma chérie. On peut peut-être t'aider à te retrouver. Si c'est un problème personnel ou professionnel, on essaie de trouver une solution. Explique-toi sans crainte.
Tout mon problème commence au travail et cela se percute sur ma vie personnelle. Je ne me sens plus bien au travail. Je ne suis pas heureuse de venir travailler.
Et quelle est la raison?
C'est à cause d'un de nos collègues. Depuis un moment, il me mène la vie dure. Il n'arrête pas de faire des remarques sur ma façon de m'habiller, sur mes actions. Ce matin, pour me parler, il m'a touché les bras. Et il était insistant. Il ne m'a pas qu'effleuré. J'étais tellement dégoûtée. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je n'ai pas su retenir mes larmes.
Continue, Rina, nous t'écoutons.
Tout a commencé avec des mots comme « tu es bien habillée »,« tu es belle aujourd'hui ». J'étais gênée. Mais en ce moment, je n'étais pas mariée. Je me suis dit que je ne peux pas me plaindre. Mais ça fait 2 ans que je suis mariée. Et il continue. Il m'appelle tard la nuit pour rien d'important. Il m'a une fois trouvé en train de manger un plat que j'ai ramené de chez moi. Il me dit que c'est tellement doux qu'il a envie d'emménager chez moi pour avoir ces petits plats tous les jours.
Ce n'est pas normal que tu acceptes tout cela, mariée ou pas. C'est un cadre professionnel. Il te doit du respect. Surtout que tu n'apprécies pas ses gestes et sa façon de faire. Il te harcèle, ma belle. Et tu ne dois pas rester silencieuse. C'est des sous-entendus et on doit en parler avec nos supérieurs hiérarchiques. Même si tu refuses de parler, je parlerai à ta place pour sauver d'autres collègues, si même certains ne sont pas dans la même situation que toi.
Non, il ne me harcèle pas. Il parle toujours chaleureusement et avec le sourire. Mais c'est l'action qui me dérange.
Ah bah Rina, mais tu es harcelée, ma chérie. C'est ça du harcèlement, ce que tu vis. C'est un harcèlement physique et moral. Car il t'a touché, tu n'as pas aimé le geste. Et cela se percute sur ta vie en dehors du boulot. Et tu as perdu l'amour du travail. Tout d'abord, c'est un délit qui se caractérise par le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements pouvant entraîner une dégradation de ses conditions de vie. Cela se traduit par une détérioration de la santé physique ou mentale de la victime. C'est ce que tu vis malheureusement, ma chérie.
Voilà, Tante Maimouna. Il va me mettre poursuivi celui-là. Il y a eu des attouchements et le Code du travail dans son article 45 interdit le harcèlement sexuel dans le cadre du travail par abus d'autorité à l'effet d'obtenir d'autrui des faveurs de nature sexuelle. Et c'est ce que ces agissements veulent dire.
Non, pas besoin d'en arriver là, s'il vous plaît. Je plaire, cela me soulage et je passe à autre chose. Je n'ai pas envie de lui créer des problèmes. Il va dire que c'est moi qui l'ai dénoncé. Non, je ne veux pas ça, s'il vous plaît.
Mais Regina, rien n'est de ta faute. Tu n'as pas demandé à être regardée. Tu ne mérites pas de vivre ça. Et personne d'ailleurs.
Mais Leila, si j'ai bonne mémoire, tu fais partie des agents mis en place pour recueillir ce genre de plaintes, non?
Oui, mais ce n'est pas encore officiel. Mais nous serons les points focaux de l'agence pour recueillir les plaintes sur le harcèlement dans le cadre du travail. Et nous pourrons peut-être confronter ce collègue. Il se pourrait qu'il ignore que ces agissements soient déplacés ou pas du tout normal.
En tout cas, merci les filles. J'ai pensé que c'était vraiment de ma faute en pensant à changer d'habillement ou carrément démissionner, car je ne pouvais vraiment plus.
Toute forme de harcèlement doit être dénoncée, Rina. Que ce soit physique, moral, par moyen électronique ou autre. Cela permet de garder la situation sous contrôle, surtout dans le cadre professionnel. Sans dénonciation, on ne peut pas t'aider, ma chérie.
J'ai bien compris maintenant, je vous remercie. Considérez ma confidence pour une dénonciation et aidez-moi, s'il vous plaît.
Je t'en prie. Bon, maintenant, retourne aux toilettes. Nettoie-moi bien ce visage et continue ton travail tranquillement.
D'accord, merci bien.
Leila, je te laisse t'en occuper.
D'accord, on doit vraiment faire quelque chose, pour tout le monde d'ailleurs.